Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Raymond Radiguet est mort à 20 ans.
Jean Cocteau.
Je pourrais reprendre la phrase de Liszt pour Chopin. Il est passé parmi nous comme un fantôme. Il a disparu en laissant deux chefs-d'œuvre. Le Diable au corps et le bal du comte d'Orgel.
Le Diable au corps a été écrit à quel âge ?
Il avait 16 ans et quand il a écrit le bal du comte d'Orgel, il en avait 19.
Ça peut pas faire de mal.
À cette époque, il y avait l'avant-garde. Et Radiguet avait un goût de la solitude, c'était un super classicisme. Il mettait tout à coup, tout le monde disait, il faut bouleverser les dettes, tout ce qu'on fait est ridicule. Et Radiguet disait, lui, il faut essayer de faire comme tout le monde, et si on n'y arrive pas, c'est qu'on a du talent ou du génie.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. C'est la guerre, les gars.
Je vais encourir bien des reproches. Mais qui puis-je ? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre ? Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux qui déjà m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. C'est par ces quelques lignes qu'éclate l'un des plus grands scandales littéraires dans le Paris de l'entre-deux-guerres, la parution en 1923 du Diable au corps de Raymond Radiguet. 5 ans après la fin du premier conflit mondial, ce jeune homme de 20 ans signe un premier roman sulfureux qui raconte l'amour interdit entre un adolescent de 15 ans, pas assez âgé pour être soldat, et une femme mariée de 18 ans, dont le mari est parti au combat. Affront à la morale bourgeoise, affront à l'honneur des anciens combattants, l'œuvre soulève une violente polémique, mais connaît aussi un immense succès public. Car le livre, édité par Bernard Grasset, fait l'objet d'une campagne publicitaire alors inédite. Il est le premier livre lancé par un clip projeté dans les salles de cinéma à la fin des actualités Gaumont. On y voit le jeune homme apporter son manuscrit à l'éditeur qui le présente comme le plus jeune romancier de France, auteur d'un véritable chef-d'œuvre. Dans la presse, celui que Cocteau considère comme un enfant prodige est taxé de sublime marmaille ou encore de bébé cadom de la littérature.
Et alors ce scandale a pratiquement divisé la France en deux à l'époque, hein, Pierre Michel.
Enfin, disons qu'il y a eu un scandale. Quand le roman est paru, Dorgelès avait fait une lettre à Radiguet en lui disant « Mon jeune ami, comme vous avez du talent et comme votre roman est beau, je regrette pourtant qu'il n'y ait pas de cœur. Je regrette que vous n'ayez manifesté aucun regret dans cette histoire. » En somme, le premier à critiquer le livre de Radiguet et à s'inscrire en faux contre l'image qui donnait des rapports de l'arrière et du front, c'était cet ancien combattant exemplaire, cet écrivain encore plus exemplaire, qu'était Roland Dorgelès.
Mais le surdoué des lettres connaît un destin fulgurant. À l'âge de 20 ans, alors qu'il rédige son second roman, Le bal du comte d'Orgel, le jeune homme est victime d'une mort précoce, emportée par une fièvre typhoïde mal diagnostiquée. Raymond Radiguet devient un mythe, consacré par la jeunesse de son époque, cette génération de la guerre qui n'a pas fait la guerre, mais que la guerre a profondément marqué. En 1947, l'adaptation au cinéma par Claude Autant-Lara avec Gérard Philippe et Micheline Prel connaîtra un second scandale. Alors que dans les années 20, le personnage de l'adolescent oisif dérange l'ordre moral, dans l'immédiat après-guerre, c'est la femme infidèle qui cristallise le déshonneur de la France. Ce soir, je vous invite à ouvrir cette œuvre au titre tentateur, Le Diable au corps, qu'un garçon de 16 ans commençait à écrire il y a tout juste 100 ans, en 1919. Retrouvons notre jeune narrateur. S'il n'a pas de nom, c'est un personnage libre qui porte un regard intransigeant sur le monde qui l'entoure. À l'âge de 12 ans, aîné d'une longue fratrie, le garçon est jugé trop médiocre pour entrer au collège. Pendant 2 ans, il passe ses journées à lire, à la campagne, du côté de Joinville. Mais à la fin de l'été 1914, la guerre vient contrarier le départ en vacances de la maisonnée. Voici une page d'une grande désinvolture, mais aussi d'une grande lucidité, de la part d'un jeune écrivain qui ose dénoncer un cliché de la Première Guerre mondiale, le départ des soldats, la fleur au fusil. Les vraies vacances approchaient et je m'en occupais fort peu puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats à fouetter et le chat se réjouit. À vrai dire, chacun se réjouissait en France. Les enfants, leurs livres de prix sous le bras, se pressaient devant les affiches. Nous allions chaque jour, après dîner, à la gare de Joinville, à 2 kilomètres de chez nous, voir passer les trains militaires. Nous emportions des campanules et nous les lancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dans les bidons et en répandaient des litres sur le quai jonché de fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feux d'artifice. Et jamais tant de vin gaspillé, de fleurs mortes. Il fallut pavoiser les fenêtres de notre maison. Bientôt, nous n'allâmes plus à Joinville. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Elle leur supprimait le bord de la mer. Habitués à se lever tard, il leur fallait acheter les journaux à 6 heures. Pauvre distraction. Mais vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table où les grandes personnes s'attardent, ils y restent pour entendre mon père parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager très loin à bicyclette. Mais quel entrain pour astiquer les machines ! Plus de paresse. Il propose de réparer la mienne. Il se lève dès l'aube pour connaître les nouvelles. Tandis que chacun s'étonne, je découvre enfin les mobiles de ce patriotisme. Un voyage à bicyclette jusqu'à la mer. Et une mer plus loin, plus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il si différent du nôtre ? Trois années ont passé, nous sommes en 1917, le narrateur a 15 ans. Admis au lycée Henri IV, le garçon découvre la joie des polissonneries du jeudi, à l'occasion des goûters, en compagnie de filles de son âge. Un dimanche d'avril, il accompagne ses parents à la gare, à la rencontre d'un couple d'amis, les Grangiers. Sans l'avoir jamais vu, il sait que leur fille, âgée de 18 ans, avait été malade et peignait des aquarelles. Ce jour-là, la jeune fille est en retard au rendez-vous. Tout le monde attend le train suivant. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les Grangiers. Mes frères, eux, bâillaient avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Je jugeai bon pour la première fois de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de travaux ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à madame votre mère, lui dis-je. On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. » Je fus attristé de cette réponse et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère, dont l'inélégance et la taille courte m'avaient aussitôt déplu. Voulant dissiper le malaise de cette réponse, je lui dis, non sans plus réfléchir, « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. D'habitude, je ne me coiffe pas aussi mal. Mais j'étais déjà en retard et j'avais peur de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches. J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine. Je discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les fleurs du mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, Je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposais de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais les cours de gymnastique pour me rendre à l'atelier d'artiste, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais l'académie à mes parents parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. Nous nous assîmes dans les prairies d'Ormesson. Dans ma candeur, je regrettais d'avoir été si loin et d'avoir tellement précipité les choses. « Marthe ne m'intimide pas », me répétais-je. Donc seuls ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément, en moi, un autre garçon se félicitait de ces troubles fêtes. Celui-ci pensait « Quelle chance que je ne me trouve pas seul avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et n'aurais aucune excuse. » Ainsi triche le timide.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air, je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Je se dévide sans toi, sans toi,
sans toi,
belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps. Par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rides sans toi, sans toi,
sans toi.
Et si tu viens trop tard,
première rencontre donne le ton de la relation qui se présage, d'abord pleine de timidité et de délicatesse. Un mois plus tard, le hasard fait que Marthe et le narrateur se revoient à Paris. Elle l'entraîne dans les boutiques en quête des achats liés à son futur ménage. Il lui fait manquer un déjeuner avec sa belle famille, la forçant à un mensonge. Puis les mois passent, chacun de leur côté. En novembre 1917, l'adolescent reçoit un faire-part de mariage ainsi qu'une lettre de la jeune femme, l'invitant à lui rendre visite dans son appartement à Joinville. C'est l'hiver, à la nuit tombante. Le feu brûle dans la cheminée. Marthe s'était de nouveau étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise. Ce feu me ravit, et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté pour se retourner de l'autre. Son visage calme et sérieux ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. À ne pas se répandre dans la pièce, cette lumière gardait toute sa force. Dès qu'on s'éloignait, il faisait nuit et on se cognait aux meubles. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle. Je la trouvais différente. C'est que maintenant que j'étais sûr de ne plus l'aimer, je commençais à l'aimer. Je me sentais incapable de calcul, de machination, de tout ce dont, jusqu'alors et encore à ce moment-là, je croyais que l'amour ne peut se passer. Tout à coup, je me sentais meilleur. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux à tout autre. Je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Au contraire, je vis la preuve que mon amour était mort et qu'une belle amitié la remplaçait. Cette longue perspective d'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentiment eût été criminel, lésant un homme qui l'aimait, à qui elle devait appartenir et qui ne pouvait l'avoir. Pourtant, autre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritables sentiments. Il y a quelques mois, quand je rencontrais Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver laide la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait enfantines. Aujourd'hui, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je commençais à respecter Marthe parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas lui demander comment Jacques trouvait les meubles que nous avions choisis ensemble. Je ne souhaitais rien d'autre que ses fiançailles éternelles. Nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre, et moi, n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes suffît à chasser le bonheur. Nous nous taisions. J'y voyais une autre preuve du bonheur. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu. Ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou et une fois réveillée, les yeux humides, me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire la plus rare et auxquelles seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais trop sans pourtant que mon visage touche à le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille ? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassais, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsque j'approchais son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses deux mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle. Mais l'amour à peine éclos se teinte d'une violence inattendue. Retrouvons le jeune couple enlacé. Au moment de se dire adieu, des mots cruels trahissent les sentiments contradictoires du jeune garçon pris entre l'enfance et l'âge adulte. Maintenant, elle s'était assise. Elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux et me répétant très doucement « Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Je cherchais longuement mes mots, car je sentais qu'il était encore plus impossible de lui dire « vous ». Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme en me disant que j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassé. Dans ce feu, je grelottais, je claquais des dents. À ma véritable peine qui me sortait de l'enfance, s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller parce que le dénouement lui déplaît. Je lui dis « Je n'en irai pas. Vous vous êtes moqué de moi, je ne veux plus vous voir. » Elle sanglotait. « Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. » Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre. Elle secouait la tête. « Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en et ne me crois pas méchante. Bientôt tu m'auras oubliée, mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. » Ce mot d'amour était sublime d'enfantillage. Et quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une jeune fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait plus se revoir. Elle me faisait lui jurer mille folies. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité enfant, il en avait fallu faire mon deuil. J'étais ivre de passion. Marthe et moi, ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autres délices. Le soir, seul dans mon lit, j'appelais Marthe, m'en voulant, moi qui me croyais un homme, de ne pas l'être assez pour finir d'en faire ma maîtresse. Chaque jour, allant chez elle, je me promettais de ne pas sortir qu'elle ne le fût.
Si c'était ton mari.
Oh, que tu es bête.
Il nous tuerait peut-être.
Non, deux coups et ma mère ne bougeons pas. On dirait que tu allais mourir.
Je crois pas. Mais il aurait bien le droit.
Tu ne m'aimes pas beaucoup.
Pourquoi dis-tu ça? Il faudrait qu'il nous tue tous les deux, naturellement. Comme ça, on resterait ensemble. Sans lui.
Marthe a confié au jeune homme une clé de son appartement. Une nuit du mois de mars 1918, il se décide à la rejoindre, par surprise, dans sa chambre. Elle croit d'abord au retour de son mari, puis découvrant son jeune amoureux trempé de pluie, elle l'accueille avec des gestes prévenants. Découvrons cette scène à la fois cocasse comme un vaudeville et délicate comme une première fois, où se devine la pudeur de ces jeunes gens âgés de 16 et 19 ans à peine. Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait dans la cuisine pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nue sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda. C'était fou de rester nu. Il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée fort possible du soldat puisque Marthe y avait d'abord cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre, car même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement. « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvais avec le trouble de tout à l'heure avant d'entrer chez Marthe. Mais comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut plus heureuse que moi. Mais la minute où nous nous désenlaçâmes et ses yeux admirables valaient bien mon malaise. Son visage était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartint à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte pour la première fois, je devais connaître ses jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme, la jalousie. J'en voulais à Marthe. parce que je comprenais tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari c'eût été chimère enfantine, mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme commet le crime à notre place. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble de n'être que des enfants, disposant de peu. Déjà nous envisageons la fin de la guerre, qui sera celle de notre amour. Nous le savons, Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra. Je ne suis pas d'une nature portée à la révolte. Et en me mettant à la place de Marthe, je n'imagine pas cette folle rupture. Mais maintenant qu'il ne me restait plus rien à désirer, je me sentais devenir injuste. Je m'affectais de ce que Marthe put mentir sans scrupule à sa mère, et ma mauvaise foi lui reprochait de pouvoir mentir. Pourtant, l'amour qui est l'égoïsme à deux sacrifie tout à soi et vit de mensonges. Poussé par le même démon, je lui fis encore le reproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari puisqu'elle y avait cru. Jusqu'alors, j'avais maté mon despotisme, ne me sentant pas le droit de régner sur Marthe. Ma dureté avait des accalmies. Je gémissais. « Bientôt, tu me prendras en horreur. Je suis comme ton mari, aussi brutal. » « Il n'est pas brutal, » disait-elle. Je reprenais de plus belle. « Alors tu nous trompes tous les deux. Dis-moi que tu l'aimes. Sois contente. Dans 8 jours, tu pourras me tromper avec lui. » Elle se mordait les lèvres, pleurait. « Qu'ai-je donc fait pour te rendre si méchant ? Je t'en supplie, n'abîme pas notre premier jour de bonheur. Il faut que tu m'aimes bien peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur. » Ces sortes de coups blessent aussi celui qui les porte. Je ne pensais rien de ce que je disais. Et pourtant, j'éprouvais le besoin de le dire. Il m'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amour grandissait. Sans doute atteignait-il l'âge ingrat, et cette taquinerie féroce, c'était la mue de l'amour devenant passion. Je souffrais. Je suppliais Marthe d'oublier mes attaques. Si la guerre reste à la lisière du roman, le personnage du mari hante le récit de son absence. Après la découverte de l'amour, le couple n'échappe pas au tourment de la jalousie. Le jeune homme dissimule son sentiment de culpabilité derrière une attitude cruelle, exigeant des preuves d'amour de plus en plus perverses. Dans la scène suivante, Raymond Radiguet prend des libertés avec un héritage symbolique de la Première Guerre mondiale, les lettres de Poilu. Un jour, la bonne des propriétaires glissa des lettres sous la porte. Marthe les prit. Il y en avait 2 de Jacques. Comme réponse à mes doutes, elle me lança « Fais-en ce que bon te semble. » J'eus honte. Je lui demandais de les lire, mais de les garder pour elle. Marthe, par un de ses réflexes qui nous poussent aux pires bravades, déchira une des enveloppes. Difficile à déchirer, la lettre devait être longue. Son geste devint une nouvelle occasion de reproche. Je détestais cette bravade. Le remords qu'elle ne manquerait pas de ressentir. Je fis malgré tout un effort et voulus qu'elle ne déchirât point la seconde lettre. Sur ma demande, elle la lut. Un réflexe pouvait lui faire déchirer la première lettre, mais non lui faire dire après avoir parcouru la seconde. Le ciel nous récompense de n'avoir pas déchiré la lettre. Jacques m'y annonce que les permissions viennent d'être suspendues dans son secteur. Il ne viendra pas avant 1 mois. L'amour seul excuse de telles fautes de goût. Ce mari commençait à me gêner. Plus que s'il avait été là et que s'il avait fallu prendre garde. Une lettre de lui prenait soudain l'importance d'un spectre. Je doutais souvent de l'amour de Marthe. Quelquefois, je me demandais si je n'étais pas pour elle un passe-temps, un caprice dont elle pourrait se détacher du jour au lendemain, l'appel la rappelant à ses devoirs. À certains moments, je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur. À d'autres, je me disais que Marthe, punissant Jacques par le silence que je lui imposais, ne le punirait jamais assez du crime de me l'avoir prise vierge. Mais quand je lus une nouvelle lettre de Jacques, je fus pris de panique. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Je ne démêlais pas le chantage. Je me vis responsable d'une mort, oubliant que je l'avais souhaitée. Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste. De quelque côté que nous nous tournions, s'ouvrait une blessure. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'était moi qui l'obligeais désormais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçues. Elle les écrivait en se cabrant, en pleurant, mais je la menaçais de ne jamais revenir si elle n'obéissait pas. Que Jacques me dût ses seules joies atténuait mes remords. Je vis combien son désir de suicide était superficiel à l'espoir qui débordait de ses lettres en réponse aux nôtres. J'admirais mon attitude vis-à-vis du pauvre Jacques, alors que j'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crime sur la conscience. Hélas, un sentiment de provisoire subsistait. Il tenait à mon âge et à ma nature veule. Bientôt, je n'eus plus de volonté pour rien, ni pour fuir Marthe, qui peut-être m'oublierait et retournerait à son devoir, ni pour pousser Jacques dans la mort. Notre union était donc à la merci de la paix, du retour définitif des troupes. Qu'il chasse sa femme, elle me resterait. Qu'il la garde, je me sentais incapable de la lui reprendre de force. Notre bonheur était un château de sable. À force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait, je la façonnais peu à peu à mon image. Qu'elle me ressemblât et que ce fût mon œuvre, me ravissait et me fâchait. J'y voyais une raison de notre entente, j'y discernais aussi la cause des désastres futurs. En effet, je lui avais peu à peu communiqué mon incertitude, qui, le jour des décisions, l'empêcherait d'en prendre aucune. Je la sentais comme moi, les mains molles, espérant que la mer épargnerait notre château de sable, tandis que les autres enfants s'empressent de bâtir plus loin.
Tu m'écris plus jamais? C'est pas possible, Marthe. S'il meurt,
François,
ce sera ta faute. Je ne veux pas de ça.
Mise en moins une.
Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui, près de nos canons, ont été piochés. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Montmelon-le-Petit. Je suis arrivé gai, comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. Je suis en ce moment parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes. J'y chanterai tes bras comme l'école des cygnes. J'y chanterai tes seins d'une déesse digne. Le lilas va fleurir. Je chanterai tes yeux où danse tout un cœur d'angelots gracieux. Le lilas va fleurir en printemps sérieux. Mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale et de l'immense amour sonne la générale. Pauvre cœur, pauvre amour.
À l'approche de l'été 1918, une nouvelle d'importance bouscule le narrateur dans ses tergiversations adolescentes. Au printemps, la relation adultère de Marthe ne passe plus inaperçue. Les habitants de Joinville la toisent avec mépris. Les allers-retours du garçon attirent l'attention des voisins. Des rumeurs parviennent jusqu'à ses parents, qui tentent de lui imposer une rupture sous menace de tout révéler aux parents de Marthe. Au mois de juin, le jeune homme appréhende une nouvelle épreuve, celle de l'absence de Marthe, obligée de rejoindre son mari, blessé et en convalescence au bord de la mer. Mais une autre épreuve l'attend, face à laquelle se manifeste tout son égoïsme et sa lâcheté. J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle, mais d'abord elle me stupéfia. N'ayant jamais pensé que je pouvais devenir responsable de quoi que ce fût, je l'étais du pire. J'enrageais de n'être pas assez homme pour trouver la chose simple. Marthe n'avait parlé que sous la contrainte. Elle tremblait que cet instant qui devait nous rapprocher nous séparât. Elle était enceinte. Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise, et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompensait notre amour, qu'il ne punissait aucun crime. Alors que Marthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que je ne la quittasse jamais, cette grossesse me consterna. À notre âge, il me semblait impossible, injuste que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse. Pour la première fois, je me rendais à des craintes d'ordre matériel. Nous serions abandonnés de nos familles. Aimant déjà cet enfant, c'est par amour que je le repoussais. Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusse été moi-même incapable de la vivre. L'instinct était notre guide, un guide qui nous conduit à notre perte. Moi, hier, repoussant cet enfant, je commençais aujourd'hui à l'aimer et j'ôtais de l'amour à Marthe. De même qu'au début de notre liaison, mon cœur lui donnait ce qu'il retirait aux autres. Maintenant, posant ma bouche sur son ventre, ce n'était plus elle que j'embrassais, c'était mon enfant. Hélas, Marthe n'était plus ma maîtresse, mais une mère. À certaines secondes, je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour, mais que son fils n'était pas le mien. Marthe, nue, j'osais à peine la regarder. Suis-je donc monstrueux ? Je ressentais des remords du plus noble emploi de l'homme. D'avoir abîmé la grâce de Marthe, d'imaginer son ventre saillir, je me considérais comme un vandale. Au début de notre amour, quand je la mordais, ne me disait-elle pas « marque-moi » ? Ne l'avais-je pas marquée de la pire façon ? Comme un malade qui cherche le calme, je ne savais de quel côté me tourner. Je sentais ne plus aimer la même Marthe et que mon fils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui de Jacques. Certes, ce superfuge me consternait. Il faudrait renoncer à Marthe. D'autre part, j'avais beau me trouver un homme, le fait actuel était trop grave pour que je m'en rengorgeasse jusqu'à croire possible une aussi folle existence. Avançons encore un peu dans le temps. L'été sépare donc Marthe et son jeune amant. Deux longs mois au cours desquels la jeune femme fera croire à son mari que l'enfant est le sien avant que le soldat ne retourne à la guerre. Au début de l'automne, Marthe est de retour chez elle à Joinville où elle reprend sa liaison avec le jeune homme. Mais le père du garçon menace d'alerter la police et de faire arrêter Marthe pour détournement de mineur. Fatiguée par sa grossesse, la jeune femme supplie elle aussi son amant d'obéir à son père au nom de sa santé et de celle de l'enfant. Mais un soir de novembre, un an après le début de leur idylle, l'amoureux exige d'elle qu'ils passent une nuit ensemble. Le logement étant sous étroite surveillance, ils sont contraints à l'errance et décident de prendre le train pour Paris. Où dormir ? Du fait même de notre inexpérience, des choses très simples devenaient des obstacles. Il nous fallait donc coucher à l'hôtel. Je n'y étais jamais allé. Je tremblais à la perspective d'en franchir le seuil. Nous demanderions deux chambres, on nous croirait frères et sœurs. Jamais je n'oserais demander une seule chambre à mon âge. Le voyage à 11 heures du soir fut interminable. Il y avait deux personnes dans notre wagon. Une femme reconduisait son mari, capitaine, à la gare de l'Est. Le wagon n'était ni chauffé ni éclairé. Marthe appuyait sa tête contre la vitre humide. Elle subissait le caprice d'un jeune garçon cruel. J'étais assez honteux et je souffrais, pensant combien Jacques, toujours si tendre avec elle, méritait mieux que moi d'être aimé. Je ne pus m'empêcher de me justifier à voix basse. Elle secoua la tête. « J'aime mieux, murmura-t-elle, être malheureuse avec toi qu'heureuse avec lui. » Voilà ces mots d'amour qui ne veulent rien dire et que l'on a honte de rapporter, mais qui, prononcés par la bouche aimée, vous enivrent. Je crus même comprendre la phrase de Marthe. Pourtant, que signifiait-elle au juste ? Ces mots ne contenaient-ils pas un reproche inconscient ? Ces moments heureux qu'elle pensait connaître avec moi me donnaient-ils le droit d'être cruel ? Nous descendîmes à Bastille. Le froid était dans ce hall de gare plus sale que la chaleur dans un port de mer. Marthe se plaignait de crampes. Elle s'accrochait à mon bras. Couple lamentable, oubliant sa beauté, sa jeunesse, honteux de soi comme un couple de mendiants. Je croyais la grossesse de Marthe ridicule et je marchais les yeux baissés. J'étais bien loin de l'orgueil paternel. Nous errions sous la pluie glaciale entre Bastille et la gare de Lyon. À chaque hôtel, pour ne pas rentrer, j'inventais une mauvaise excuse. Je disais à Marthe que je cherchais un hôtel convenable, un hôtel de voyageurs, rien que de voyageurs. Place de la gare de Lyon, il devint difficile de me dérober. Marthe m'enjoignit d'interrompre ce supplice. Tandis qu'elle attendait dehors, j'entrais dans un vestibule, espérant je ne sais trop quoi. Le garçon me demanda si je désirais une chambre. Il était facile de répondre oui. Ce fut trop facile. Et cherchant une excuse comme un rat d'hôtel pris sur le fait, je lui demandai « Madame Lacombe ». Je la lui demandai rougissant et craignant qu'il me répondît « Vous moquez-vous, jeune homme ? Elle est dans la rue ». Il consulta les registres. Je devais me tromper d'adresse. Je sortis expliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nous n'en trouverions pas dans le quartier. Je respirais. Je me hâtais comme un voleur qui s'échappe. Tout à l'heure, mon idée fixe de fuir ces hôtels où je menais Marthe de force m'empêchait de penser à elle. Maintenant, je la regardais, la pauvre petite. Je retins mes larmes. Et quand elle me demanda où nous chercherions un lit, je la suppliai de ne pas en vouloir à un malade et de retourner sagement chez elle à Joinville et moi chez mes parents. Malade, sagement. Elle fit un sourire machinal en entendant mes paroles. Ma honte dramatisa le retour. Quand, après les cruautés de ce genre, Marthe avait le malheur de me dire « Tout de même, comme tu as été méchant, je m'emportais, la trouvais sans générosité. » Si au contraire elle se taisait, la peur me venait qu'elle me considérât comme un malade, un démon. Alors je la forçais à me parler avec énergie, à me menacer. Que si elle me pardonnait, il ne fallait pas cependant que je profitasse de sa clémence, etc., etc. Et bien que je ne crusse pas à ces menaces, j'éprouvais une douleur délicieuse. Comparable en plus fort à l'émoi que me donnent les montagnes russes. Alors je me précipitais sur Marthe, l'embrassais plus passionnément que jamais. « Répète-moi que tu me quitteras, lui disais-je, haletant, en la serrant dans mes bras jusqu'à la casser. » Soumise, comme ne peut même pas l'être une esclave, mais seul un médium, elle répétait, pour me plaire, des phrases auxquelles elle ne comprenait rien. Cette nuit des hôtels fut décisive, ce dont je me rendis mal compte après tant d'autres extravagances. Mais si je croyais que toute une vie peut boiter de la sorte, Marthe, elle, dans le coin du wagon de retour, épuisée, atterrée, claquant des dents, comprit tout. Peut-être même vit-elle qu'au bout de cette course d'une année, dans une voiture, follement conduite, il ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard, un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer fidèle et joyeux les miroirs ternis et les flammes mortes. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. Sous des cieux plus beaux, sous des cieux plus beaux.
Le surlendemain, Marthe tombe malade. Elle est installée en urgence chez ses parents, où elle doit rester alitée jusqu'à la fin de la grossesse. Sous le choc, le jeune homme est contraint de rester chez ses parents. Il trouve réconfort auprès de son père, un être faible qui finit toujours par lui pardonner ses incartades. Le garçon est interdit de visite chez sa maîtresse. Il faut sauver les apparences et l'ordre moral. En ce mois de novembre 1918, la guerre touche à sa fin. Il ne sait pas encore qu'il ne reverra plus Marthe ni son enfant. En un an, j'étais devenu un étranger pour mes sœurs. Elles se réhabituaient à moi. Je prenais la plus petite sur mes genoux et, profitant de la pénombre, la serrais avec une telle violence qu'elle se débattait, mi-riante, mi-pleurante. Je pensais à mon enfant, mais j'étais triste. Il me semblait impossible d'avoir pour lui une tendresse plus forte. Mais étais-je mûr pour qu'un bébé me fût autre chose que frère ou sœur? Qu'avais-je à faire sauf ce que je ne ferais plus? Au bruit de la sonnette, au passage d'une voiture, je tressaillais. Je guettais dans ma prison les moindres signes d'une délivrance. À force de guetter des bruits qui pouvaient annoncer quelque chose, mes oreilles un jour entendirent des cloches. C'était celle de l'armistice. Pour moi, l'armistice signifiait le retour de Jacques. Déjà, je le voyais au chevet de Marthe, sans qu'il me fût possible d'agir. J'étais perdu. Mon père revint à Paris. Il voulait que j'y retournasse avec lui. On ne manque pas une fête pareille. Je n'osais refuser. Je craignais de paraître un monstre. Puis, somme toute, dans ma frénésie de malheur, il ne me déplaisait pas d'aller voir la joie des autres. Avouerai-je qu'elle ne m'inspira pas grande envie. Je cherchais le patriotisme. Mon injustice, peut-être, ne me montrait que l'allégresse d'un congé inattendu. Les cafés ouverts plus tard, le droit pour les militaires d'embrasser des midinettes. Ce spectacle, dont j'avais pensé qu'il m'affligerait, qu'il me rendrait jaloux, ou même qu'il me distrairait par la contagion d'un sentiment sublime, m'ennuya comme une fête de Sainte-Catherine. Découvrons la fin de cette histoire d'amour impossible. Nous sommes début janvier 1919. Marthe est morte en couche, en mettant au monde un enfant à qui elle donne le prénom de son amant. Un enfant qui aura pour père le mari légitime, Jacques, de retour de guerre. Le narrateur, lui, s'enferme dans le mutisme, dans son égoïsme. Un jour à midi, mes frères revinrent de l'école et nous criaient que Marthe était morte. La foudre qui tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas. Mais c'est pour celui qui l'accompagne un triste spectacle. Tandis que je ne ressentais rien, le visage de mon père se décomposait. « Sortez !» bégaya-t-il. « Vous êtes fou, vous êtes fou !» Moi, j'avais la sensation de durcir, de refroidir, de me pétrifier. Ensuite, comme une seconde déroule aux yeux d'un mourant tous les souvenirs d'une existence, la certitude me dévoila mon amour avec tout ce qu'il avait de monstrueux. Parce que mon père pleurait, je sanglotais. Alors ma mère me prit en main, les yeux secs. Elle me soigna froidement, tendrement, comme s'il se fût agi d'une scarlatine. Ma syncope expliqua le silence de la maison les premiers jours à mes frères. Les autres jours, ils ne comprirent plus. On ne leur avait jamais interdit les jeux bruyants. Ils se taisaient. Mais à midi, leurs pas sur les dalles du vestibule me faisaient perdre connaissance, comme s'ils eussent dû chaque fois m'annoncer la mort de Marthe. Marthe. Ma jalousie la suivant jusque dans la tombe, je souhaitais qu'il n'y eût rien après la mort. Ainsi est-il insupportable que la personne que nous aimons se trouve en nombreuse compagnie dans une fête où nous ne sommes pas. Mon cœur était à l'âge où l'on ne pense pas encore à l'avenir. Oui, c'est bien le néant que je souhaitais pour Marthe, plutôt qu'un monde nouveau où la rejoindre un jour. Jean Cocteau.
À 14 ans, Raymond Radiguet savait tout et nous enseignait tout. Et nous nous mîmes à son école. Sa mort, par la typhoïde, était d'autant plus étrange qu'il ne rêvait que de prendre de l'art. Il détestait le point de vue wildien sur la jeunesse. Il avait la folie de l'enfance et la gravité de l'âge mûr.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Manu Couturier à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine.